France Inter.
Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, l'histoire d'une rivalité entre deux groupes, So British, Blur et Oasis. En 1995, ces deux formations aux styles très différents sont les rois d'un nouveau courant qui affole tous les gamins du monde, fans de guitare électrique, la Britpop. Pourtant, dans les coulisses, ce n'est pas vraiment l'amour fou entre les musiciens. Pire encore, les deux chanteurs, Damon Albarn et Liam Gallagher, se haïssent. Oui, les Anglais prononcent Liam et non pas Liam. Dont acte. Alors quand le 14 août 1995, les deux groupes sortent un single le même jour, c'est tout le pays qui s'enflamme. Et bientôt, cet antagonisme musical révèle un phénomène social qui structure l'île depuis des siècles, la guerre des classes. Entre les petits bourgeois de Blur et les prolétaires d'Oasis, une longue bataille débute, un mélange de soap-opéra et d'excès traditionnels du rock. Bref, une histoire qui résume à elle seule tout un pays et toute une époque. Notre invité aujourd'hui, Frédéric Granier, auteur d'un livre intitulé « Blur versus Oasis, le match de la Britpop », paru en 2019 aux éditions du Castor Astral. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Guillaume Balandras, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Frédéric Milano.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Franchement, Sutherland, c'est vraiment un gars très intelligent. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, des années plus tard, on est encore assis à parler de cette bagarre entre Blur et Oasis. Et vous savez ce qui m'embête le plus dans tout ça? C'est Blur et Oasis. Pourquoi il a mis leur nom en premier?
Samedi 12 août 1995, Londres. Une vague de chaleur sans précédent s'est abattue sur le Royaume-Uni et un soleil presque méditerranéen brûle les trottoirs de la capitale. Dans un café du quartier branché de Soho, Steve Sutherland, un journaliste musical de 39 ans, tente de contenir sa gueule de bois avec une aspirine, des œufs brouillés et une tasse de thé. La soirée de la veille, en effet, a laissé des traces. Le souvenir de trop de pintes lui grille le crâne. Steve est l'un des acteurs majeurs de la scène musicale du pays. 3 ans déjà qu'il est le rédacteur en chef du plus célèbre hebdomadaire consacré au rock et à la pop, le New Musical Express, appelé NME, une véritable institution. Depuis sa création, en 1952, il a couvert l'évolution de dizaines de groupes anglais, des Beatles jusqu'à Pink Floyd, en passant par les Smiths ou Joy Division. Dans un pays où un foyer sur 4 dispose d'un exemplaire de Sgt. Pepper's, l'autre chef des Beatles avec Revolver, chef-d'œuvre, l'hebdomadaire est la bible d'une religion appelée pop music. Et justement, ce 12 août, un numéro spécial du NME doit paraître. Et ce numéro est consacré à la sortie prochaine des singles de deux groupes du moment et des deux groupes, Blur et Oasis. L'affaire est inédite. En temps normal, deux groupes aussi importants ne sortiraient jamais leur titre le même jour. Les Beatles et les Stones, en leur temps, n'ont jamais fait ça. Et pour cause, ils étaient amis. Or, Blur et Oasis ne s'apprécient pas vraiment. Plus particulièrement, les deux chanteurs, Damon Albarn de Blur et Liam Gallagher d'Oasis. Pour Sutherland, cette sortie conjointe a donc des airs de match de boxe. D'ailleurs, pour la couverture de ce numéro spécial, il a eu une idée plutôt maligne. Reprendre la charte graphique des affiches de combat. Ainsi, sous le titre « Championnat britannique des poids lourds », on découvre, en lieu et place des photos de boxeurs, les mines fatiguées de deux rockstars au sommet de leur gloire. À gauche, on trouve Damon Albarn, avec ses cheveux blonds ébouriffés et son regard bleu insouciant. Le leader de Blur, 27 ans, affiche des airs de jeune premier. Sur sa droite, Liam Gallagher, donc, le chanteur d'Oasis, 23 ans, présente la tête du parfait challenger. Avec ses yeux cachés par d'épaisses lunettes de soleil et son allure légèrement footiste, il semble déjà vouloir en découdre. Damon, l'intello littéraire aux poses théâtrales, et Liam, le hooligan arrogant. Pour la presse, c'est de la forme un casting idéal. Depuis le mouvement punk 2 décennies plus tôt, on n'avait pas connu pareille excitation en Grande-Bretagne. Sutherland est aux anges. Enfin, après des années d'apathie, un mouvement social musical typiquement britannique fait à nouveau la une du NME. D'ailleurs, L'un de ses collègues lui a trouvé un nom, ou pas très original mais efficace, la Britpop. Car derrière Blur et Oasis, c'est toute une scène qui peuple les colonnes du journal, avec des groupes comme Pulp ou Sioude. Tous ont un point commun, l'envie de faire une musique ancrée dans la culture de leur pays. Comme l'explique Brett Anderson, le chanteur de Sioude, au micro de la BBC.
Quand on a commencé à chanter la vie en Angleterre, avec un accent britannique, on était les seuls à le faire.
Avec ce duel au sommet, la Britpop profite d'un éclairage inédit. Les ventes du journal promettent d'atteindre des records. Le tirage habituel de 200 000 exemplaires a été revu à la hausse. Et la veille, toute la rédaction a fêté une parution qui s'annonce déjà historique. Alors, face à son thé et ses toasts, Thunderland surmonte son mal de crâne en contemplant la couverture de son journal. Dans le petit bar, les haut-parleurs de la radio crachent les premières mesures de Some Might Say, le précédent single d'Oasis, et le journaliste sourit, car le match est lancé. Deux jours plus tard, le lundi 14 août 1995, les deux singles sortent enfin. D'un côté, Oasis avec Roll With It, et de l'autre, Country House de Blur. Et dès l'ouverture, des milliers d'ados se bousculent chez tous les disquaires du pays. Alors, qui va gagner le combat? Le vainqueur au nombre de disques passera dans une émission de la BBC vénérée de l'autre côté de la Manche, Top of the Pops. L'affaire passionne tellement les Anglais qu'elle est traitée par la presse généraliste. Ainsi, le 14, la BBC ouvre son journal du soir par un résumé de la bataille.
Deux des formations les plus populaires de musique pop se disputent la plus grande bataille des ventes depuis 30 ans. Le groupe de Manchester Oasis et leurs rivaux de Blur ont chacun sorti un nouveau single aujourd'hui et tous les deux espèrent être numéro 1 la semaine prochaine.
Dans le reportage qui suit, Steve Sutherland est interrogé, suivi de Dave Rowntree, le batteur de Blur, qui résume à sa manière le duel entre les deux formations.
Aujourd'hui, on vit un nouvel âge d'or de la musique britannique. Ces deux groupes, Oasis et Blur, viennent des circuits indépendants. Ils ont joué des centaines de concerts dans tout le pays avant de toucher un large public. Et maintenant, ils s'affrontent pour savoir qui est le plus populaire.
Il n'y a pas de désamour entre les deux groupes qui voient l'affaire avec dérision. On pourrait prendre ça pour une stratégie médiatique pour faire monter les ventes, mais ces dernières semaines ont été compliquées entre les membres des deux groupes.
On a décidé de sortir les titres le même jour parce que c'était soit ça, soit les coups de poing dans la gueule.
Au même moment, dans tous les pubs de l'archipel, l'affaire est sur toutes les lèvres et tout le monde est sommé de prendre position, alors qu'on peut aimer les deux, mais bon. Même les bookmakers s'y sont mis. Le lendemain matin, 15 août 95, Oasis est donné favori avec une cote de 6 contre 4. En Angleterre, ce type de position est classique, pour ne pas dire traditionnel. Sex Pistols contre Clash dans les années 70, Stone Roses contre Happy Mondays dans les années 80, mais surtout, et évidemment, Beatles contre Rolling Stone dans les années 60, une construction marketing, car la rivalité entre les deux géants était on ne peut plus amicale. Mais depuis des décennies, les antagonismes réels ou supposés ont aidé à bâtir la légende du rock britannique. Et comme pour leur illustre prédécesseur, le duel dépasse largement les considérations musicales. Car Oasis et Blur viennent de milieux complètement différents. D'un côté, les membres de Blur sont issus de la petite bourgeoisie du sud du pays et ont tous fréquenté les bancs de l'université. Ils sont les chouchous des étudiants et des jeunes actifs de la capitale. À l'inverse, les deux frères Gallagher, d'Oasis, Liam le chanteur et Noël le guitariste, se présentent comme les représentants de la culture lad, du nom de ces jeunes de la classe ouvrière méprisés par des années de thatcherisme. Avant d'être esthétique, l'opposition est donc sociale. Classe moyenne éduquée contre prolétariat industriel, comme l'explique Noël Gallagher, le compositeur en chef d'Oasis, dans le documentaire Live Forever, sorti en 2002.
Ils sont comme ils sont, et on est comme on est. Ils n'ont jamais mis les pieds sur un chantier. Je ne dis pas que la terre sous les ongles est un trophée. Ce sont simplement des faits. Ils n'ont jamais livré des journaux. J'ai été livreur de lait. J'ai travaillé sur des chantiers. Ça fait que mon âme est infiniment plus pure que la leur.
La confrontation entre les deux groupes touche à des affects profonds, ancrés depuis des siècles dans la structure sociale du pays. Il faut dire que cette division conditionne de nombreux aspects de la vie des Britanniques. l'éducation, la culture, l'espérance de vie, mais aussi le vote. Ainsi, en cette année 95, le pays est dirigé depuis 16 ans par une majorité conservatrice, d'abord par Margaret Thatcher, puis John Major. Abandonné par le pouvoir central, écrasé par un chômage de masse, les habitants des grandes villes industrielles du pays trouvent donc en Oasis un motif de fierté. La guerre contre les petits bourgeois de Blur est même vécue par certains comme une revanche symbolique. Du côté des musiciens, la bataille, elle aussi, est prise très au sérieux. Depuis quelques semaines, une animosité féroce s'est installée entre les deux groupes, en particulier entre les deux chanteurs, Liam et Damon. Là où leurs prédécesseurs des années 60 ou 70 cultivaient en privé une amitié solide et un respect mutuel, les deux têtes d'affiche de la Britpop, eux, ne peuvent pas s'encadrer. Et très vite, les premiers coups sont échangés par interview interposée. Dans la soirée du 15 août, Damon Albarn ouvre les hostilités. Il affirme à la BBC son goût pour la compétition et son envie de remporter la bataille. Trois jours plus tard, le 18, Noel Gallagher réplique. Quand il apprend que le single de Blur contient l'expression « Morning Glory », qui est le titre de l'une de ses chansons, il lâche à un journaliste une petite phrase assassine dont il a le secret. « Blur peut bien voler nos paroles, ce sera impossible pour nous de faire pareil, car je ne vois pas ce qui pourrait rimer avec sac à merde. » Le ton est donné. Alors pourquoi tant de haine ? S'agit-il simplement d'une histoire de classe sociale ? Pas complètement. En effet, quelques mois plus tôt, les deux groupes ne se détestaient pas autant, et même, ils s'appréciaient. Alors, pour comprendre les raisons de la discorde, un retour en arrière s'impose, un an et demi plus tôt. Nous sommes alors au début de l'année 94. Le Royaume-Uni découvre une série de groupes sortis de l'âme de ses métropoles dans un nouveau mouvement appelé Britpop.
Il s'est passé quelque chose. Une nouvelle génération de Britanniques est arrivée. Ils méprisaient la culture populaire américaine. La musique, le cinéma, la télé, les jeux vidéo. Tout venait des USA. Et au milieu des années 90, cette génération s'est révoltée contre tout ça.
Au début de l'année 1994, le paysage musical britannique est en profonde mutation. Après des années de domination américaine, notamment avec le groupe Nirvana de Kurt Cobain et son punk torturé appelé grunge, le pays semble enfin se réveiller de sa léthargie. En quelques mois, on voit débarquer des quatre coins du pays une collection disparate de petits groupes indépendants. Sioux, Pulp, Supergrass, The Verve, mais aussi Blur. Même s'ils ont des styles très différents, tous sont aux antipodes de la noirceur primitive du grunge et revendiquent des influences 100% british. Les Beatles, évidemment, et en premier, mais aussi David Bowie, les Smiths ou encore les Kinks. Fini les chemises à carreaux, les jeans troués et l'égocentrisme hurlant, bonjour les survêtements rétro, les chemises repassées et l'arrogance stylée. Et tant pis si les groupes n'ont pas vraiment d'esthétique commune ou de liens affectifs, non. Le simple fait de faire de la musique typiquement britannique suffit pour intégrer le train Britpop en marche. Parmi tous ces groupes, Blur est alors le plus populaire. Formé 3 ans plus tôt par 4 étudiants issus de la petite bourgeoisie du sud du pays, on l'a dit, le groupe sort en avril 94 son 3e album, Park Life.
Hello, we're Blur, and I'm Damon, and I'm a singer.
I'm Graham, and I play the guitar.
I've got a big, 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 big bass guitar, and I'm called Alex.
I'm called Dave, and I play the drums.
Intellectuel, référencé, pince sans rire, les textes du chanteur Damon Albarn font la part belle aux observations sociales et à la satire. En vrac, il est question de courses de lévrier, de vacances au bord de la mer ou encore de la météo capricieuse de l'archipel. Le tout délivré avec l'accent cockney typique de la capitale anglaise. Grâce à ses paroles sarcastiques et son sens des grooves impeccable, Blur connaît à la fois un succès critique et populaire. Au moment où Park Life sort, un nouveau rival débarque dans l'arène. Un groupe venu des bas-fonds du quartier de Burnage à Manchester, Oasis. Emmené par les frères Gallagher, Liam et Noel, le groupe traîne dès ses premiers concerts une réputation sulfureuse. Avec la sortie de leur premier single, intitulé Supersonic, en avril 94, ces deux grands fans de foot et des Beatles prennent le pays de court. En quelques jours, la chanson envahit les ondes de la BBC et le groupe donne ses premières interviews.
On vient d'Angleterre, de Manchester. Je ne me souviens pas où on s'est rencontrés.
On vit dans le même quartier, on a tous grandi ici. On se connaît depuis 12 ans. À l'époque, on jouait au foot.
Normal qu'on ait du succès, on est le meilleur groupe.
Bon, musicalement, c'est assez simple. Au départ, il s'agit d'un choix par défaut d'ailleurs. Pour pallier les carences techniques de ses acolytes, Noël, le compositeur, guitariste et chef du groupe, a décidé de tout simplifier. Un mur du son d'accords basique et distordu, posé sur un rythme binaire. La formule est limitée mais imparable, efficace. Dans la foulée, le groupe donne des concerts épiques aux quatre coins du pays. Le public découvre alors un chanteur aussi désinvolte que charismatique, Liam Gallagher. Planté au milieu de la scène dans une volumineuse parka, les genoux fléchis, les mains croisées dans le dos et le menton relevé sous le micro, le jeune homme semble défier le monde entier du regard lors de chacune de ses prestations. Comme le dira plus tard un observateur, Oasis était tellement dépourvu de finesse et de complexité qu'il en est ressorti un son inarrêtable. Et les gens adorent. Contrairement à Blur et ses études de caractère ironique, Oasis propose des hymnes destinés à l'homme de la rue. Et même si les paroles ressemblent souvent à du charabia, quand Liam chante qu'il se sent supersonique, plus de 2 millions de Britanniques savent exactement de quoi il parle. Grâce aux ventes phénoménales du single, puis de leur premier album, Definitively Maybe, Liam et Noël mènent la vie de destruction rituelle qu'on entend dans tous les contes de l'histoire du rock'n'roll. Ils deviennent des icônes pour tous les gamins des quartiers défavorisés du pays.
C'est des jeunes comme nous. On partage la même culture et ils la font découvrir à tout le monde dans leur musique. C'est génial ce qu'ils font. Ils sont à la tête de tout un mouvement. En plus, Liam Gallagher est super mignon. Je rêve d'être la mère de ses enfants.
C'est un super groupe, le meilleur d'Angleterre en ce moment.
C'est nouveau et c'est frais et ils s'en foutent de ce que les critiques peuvent bien dire.
Avec le succès de Blur et l'arrivée de l'ouragan Oasis, tous les critiques rock du pays sont en extase et les articles remplis d'hyperboles se succèdent. À la fin de l'année 94, les deux groupes sont les locomotives du renouveau de la musique britannique. Et même s'ils viennent de milieux différents, les relations sont plutôt bonnes entre les deux formations. Noël Gallagher, notamment, fait l'éloge de Blur dans plusieurs interviews. Les londoniens, de leur côté, reconnaissent la qualité d'écriture et la maîtrise des nouveaux venus. D'ailleurs, le 15 décembre, quand le gang des Gallagher vient jouer son single Water dans l'émission Top de Pops, c'est Damon Albarn en personne qui les introduit. Il ne le sait pas encore, mais un mois plus tard, un événement va mettre le feu aux poudres entre les deux groupes et précipiter le pays dans une véritable bataille culturelle.
La semaine prochaine, Gary Glitter vous présentera une émission spéciale pour les fêtes de fin d'année. Et en attendant, je vous laisse avec cinq beaux gars venus tout droit de Manchester. Ils s'appellent Oasis et ils sont formidables. We'll be right back.
Aujourd'hui, Blur Oasis, la bataille d'Angleterre.
France Inter, affaires sensibles.
Au début de l'année 95, au sommet de la Britpop, le courant musical qu'ils incarnent, Oasis et Blur sont les deux groupes les plus populaires du Royaume. Mais dans les coulisses, après des semaines d'entente cordiale, l'ambiance est nettement refroidie. Et le 19 janvier, lors d'une soirée de gala à Londres, une première altercation se produit entre Liam et Damon. Ce soir-là, un photographe du New Musical Express demande aux deux chanteurs s'ils veulent bien poser ensemble pour une photo. Hors de question pour Liam. Et avec son accent traînard de Manchester, il déverse alors un torrent d'insultes sur son homologue. Mais pourquoi cette agression gratuite? Après tout, les relations étaient encore polies, à peine 3 semaines plus tôt. Pour de nombreux journalistes présents sur place, la réponse n'est pas à chercher bien loin. Liam est un homme en colère, c'est une seconde nature. Une fourchette dans un monde fait de soupe, comme aime dire son frère, Noël. L'alcool aidant, il aurait donc simplement dit à son alter ego ses 4 vérités. Pour lui, Damon est un imposteur, tout juste capable de minauder sur une musique pathétique. Mais des années plus tard, on apprendra qu'il ne s'agissait pas d'un simple mouvement d'humeur. Interrogé sur le sujet en 2002, Damon Albarn donnera un premier élément de réponse entre 2 silences gênés.
Je ne peux pas te donner la vraie raison de l'engueulade. Parce que ça concerne d'autres personnes. La vraie raison, je ne peux pas la dire en public.
Alors, quelle est donc cette vraie raison, personnelle et privée, qui a provoqué cette crise? Si l'on en croit le livre de Daniel Rachel sorti en 2019 intitulé « Don't Look Back in Anger », il s'agirait en réalité d'une simple histoire d'adultère. Bref, rien de très supersonique. Et une sorte de malentendu sur la nature du conflit s'installe entre les deux groupes. Pour Blur, cette guerre n'en est pas vraiment une. Il s'agit plus d'un folklore amusant, destiné aux médias, que tout le monde doit prendre avec du recul. Mais du côté d'Oasis, c'est une autre histoire, surtout pour Liam. Lui prend l'affaire très à cœur. D'ailleurs, un mois après cette première empoignade, les deux groupes se croisent de nouveau, cette fois lors de l'équivalent britannique des victoires de la musique, les Brit Awards. Lors de la cérémonie, Blur rafle les 4 principaux prix. Sur la grande scène, le groupe profite d'un de ses nombreux passages pour tenter d'apaiser les tensions. Damon, accompagné du guitariste Graham Coxon, témoigne tous les deux publiquement de leur affection pour leurs collègues de Manchester.
Cette récompense, on la mérite autant qu'Oasis.
On a beaucoup d'affection et de respect pour eux.
Bon, c'est vrai que quand on a gagné, c'est plus facile d'être sympa. Dans la salle, Liam Gallagher fulmine. Pour lui, ses remerciements sont une provocation ironique. Une preuve de plus que Damon est un bouffon qui joue constamment un rôle. L'histoire pourrait s'arrêter là. Mais quelques mois plus tard, cette nouvelle bataille d'Angleterre atteint un point de non-retour. En mai 95, les deux hommes se rencontrent à nouveau, cette fois dans un bar branché de Covent Garden. Oasis fait alors son nouveau single, numéro 1 des ventes, Some Might Say. Cette fois, quand Damon arrive dans l'établissement, Liam fonce tête la première sur lui. Encore et toujours intoxiqué, le mancunien fixe son rival dans les yeux et le nargue sur son récent succès devant un parterre médusé. Albarn avait jusque-là toujours tâché d'arrondir les angles. Mais cette énième provocation ne passe pas. Parce que trop, c'est trop. Alors en colère, le chanteur londonien rentre chez lui avec une idée en tête, donner une leçon au cadet des Gallagher. De son côté, Noël, l'aîné, lui, reste philosophe. Même s'il soutient son frère, par principe, il connaît très bien, trop bien, la capacité de ce dernier à créer et entretenir les tensions. Lors d'une interview, il joue donc à sa façon les diplomates. « Oh, ce sont tous les deux des chanteurs, dit-il, et les chanteurs sont des abrutis. Ils sont câblés à l'envers. » Une fois qu'ils se sont regardés dans le miroir pendant 4 heures, que peuvent-ils faire d'autre? Hélas, malgré ces paroles d'une sagesse toute relative, il est déjà trop tard, car cette fois la guerre est déclarée, et pour de bon. Pour preuve, ce petit extrait de Graham Coxon, le guitariste de Blur, qui se lance dans une reprise sarcastique lors d'une session en studio. « C'est donc dans cette atmosphère tendue que les deux groupes annoncent tour à tour la sortie de leurs nouveaux albums à un mois d'intervalle. Celui de Blur paraîtra en septembre 95, puis celui d'Oasis en octobre. En guise de mise en bouche, deux singles sont prévus pour l'été. Oasis avec Roll With It, qui doit sortir le 14 août, puis Blur et son Country House, une semaine plus tard, donc le 21. Comme ça, pas de jaloux. Les deux groupes pourront être l'un et l'autre numéro un des ventes. Oui, mais voilà. Damon Albarn n'a toujours pas digéré les bravades successives des dernières semaines. Alors, sans consulter ses collègues, il fait une proposition audacieuse à sa maison de disques, avancer la sortie du single d'une semaine et le sortir le même jour que celui des Mancuniens. De leur côté, les frères Gallagher relèvent le défi, comme l'explique Noël dans le documentaire Live Forever.
On s'est sentis insultés. Alan McGee, le chef de notre maison de disques, nous a dit « Ils ont avancé la sortie de leur single. Ils ont chamboulé tout leur programme pour le sortir le même jour que vous. » Alan McGee nous a dit « On peut toujours retarder la sortie du vôtre. » On lui a dit « Surtout pas, on les emmerde. » En réalité, c'était leur dernière chance de profiter du succès de mon groupe.
L'information est relayée par toute la presse musicale. Et dans les jours qui suivent, l'excitation monte jusqu'au climax. Comme nous l'avons raconté au début de ce récit, les deux titres sortent donc le 14 août 1995, donc le même jour, et le pays se divise en deux clans. Finalement, après une semaine d'attente, les résultats sont annoncés. Oasis s'était donné favori par les bookmakers, mais c'est Blur qui l'emporte. Damon Albarn a gagné son pari. Au total, son groupe a vendu 274 000 singles contre 216 000 pour le groupe de Manchester. Le jeudi 24 août, c'est donc Blur qui passe à Top of the Pops pour interpréter Country House. Les Londoniens ont remporté la bataille, mais pas la guerre. En effet, à l'automne, les albums des deux groupes sortent à quelques semaines d'intervalle. Cette fois, il n'y a plus de compétition. La déferlante Oasis emporte tout sur son passage. Les singles numéro 1 des ventes s'enchaînent, Wonderwall, Don't Look Back in Anger, et le groupe devient une véritable institution. Quand un concert géant est annoncé à Nebworld, pour l'année suivante, près de 4% de la population totale du Royaume-Uni demande des places. Pourtant, les deux frères n'ont toujours pas digéré la défaite de l'été. Teigneux, ils poursuivent donc leur harcèlement, comme ici dans l'émission Top of the Pops, où Noël Gallagher présente son groupe comme le meilleur du monde, avant d'ironiser sur le nom de ses ennemis de toujours.
Good evening, Top of the Pops, best band in the world, live and exclusive, it's not Blur.
En octobre, un nouveau palier est franchi. Lors d'une interview, Noël, encore lui, déclare sur un ton amusé qu'il aimerait que deux des membres de Blur, Damon et Alex, le bassiste, meurent du sida. La blague passe tellement mal que l'aîné des Gallagher doit se résoudre à faire ce qu'il n'avait encore jamais fait, s'excuser publiquement. Malgré ses fanfaronnades de mauvais goût, c'est déjà le début de la fin pour la Britpop. Dans les mois qui suivent, les deux groupes se perdent de vue et l'animosité entre les musiciens retombe enfin. Blur se tourne vers un son plus américain avec la sortie de l'album 13 en 1999, tandis qu'Oasis devient à force d'excès une caricature avec Be Here Now, sorti à la même époque. Peu à peu, la Britpop s'éteint, remplacée par de nouveaux genres, mais surtout de nouvelles façons de consommer et d'écouter de la musique. Car en ce début des années 2000, l'industrie est bouleversée par une révolution technologique. Avec l'arrivée du MP3 et d'Internet, les CD et autres singles deviennent en quelques mois des reliques. L'argent se fait plus rare et les contrats diminuent. Signe des temps. En 2003, Blur se sépare après 12 ans d'existence et 7 albums. Les médias ne sont pas épargnés. Les ventes du NME, le grand magazine de rock, s'effondrent. Et en 2006, Top of the Pops cesse même d'émettre après 42 ans de diffusion hebdomadaire. Une page de la culture britannique se tourne. Finalement, le 29 août 2009, dans les coulisses d'un festival parisien, le cercueil de la Britpop est définitivement cloué. Ce jour-là, les frères Gallagher se disputent une dernière fois. Oasis se sépare 15 ans jour pour jour après la sortie de son premier album. Depuis, Liam et Noël ne se parlent plus. Chacun a entamé une carrière solo avec des réussites mitigées. De son côté, Damon Albarn a retrouvé le succès avec un nouveau groupe aux influences électroniques, Gorillaz. Il faut attendre 2017 pour que cette histoire connaisse un dernier rebondissement. 22 ans après la bataille de la Britpop, Noël Gallagher et Damon Albarn apparaissent pour la première fois sur une même chanson. Comme on pouvait s'y attendre, Liam n'est pas content et le fait savoir. Et évidemment, la presse repart de plus belle. L'histoire de Blur et d'Oasis est donc ça. Le cycle sans fin d'un feu alimenté constamment par les médias. Après tout, c'est naturel. Un antagonisme rendra toujours une histoire plus excitante. Sans ça, qui s'en serait soucié et qui en parlerait encore aujourd'hui? Alors entre nous, qui a gagné, Blur ou Oasis? Eh bien la réponse est facile. Pulp, que voici.
St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that her tap was loaded. I said, in that case, I'll have room with Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Oh, what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. Pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah, I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to the flat above the shop. I cut your hair and get a job. I smoked some packs and play some pool. Pretend you never went to school. And still you never get it right. It's when you're late in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it. Oh yeah. You'll never live like common people. You'll never do whatever common people do. Never fail like common people. You'll never watch your life slide out of view. And then dance and drink and screw. Because there's nothing else to do.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, la rivalité Oasis Blur. Notre invité, Frédéric Granier. Bonjour.
Bonjour.
Journaliste, écrivain, spécialiste des Beatles et de la pop britannique en général, auteur de Blur contre Oasis, le match de la Britpop, livre paru dans la collection bien nommée A Day in a Life aux éditions du Castor Astral. A Day in a Life étant un morceau emblématique des Beatles, l'une des fusions les plus magiques des talents de Lennon et McCartney. Bien, est-ce que, Frédéric Granier, cette Britpop est une pure invention de journaliste parce qu'il fallait donner un nom à un courant et puis aussi peut-être créer un courant? On aime bien ça dans l'histoire du rock.
Oui, le terme de Britpop, on peut considérer que c'est vraiment une construction journalistique. D'ailleurs, le terme apparaît d'abord à la fin des années 80, quand un journaliste qui s'appelle John Robb, qui travaille au New Musical Express et au Melody Maker. Ils cherchent à englober sous une même étiquette des groupes comme les Stone Roses, comme les Lays, qui avaient beaucoup de succès à l'époque. Et c'est un terme qui va réapparaître en 93, notamment dans un numéro de Select, une publication qui n'existe plus aujourd'hui, et avec Brett Anderson du groupe Suede, hein, qu'on citait tout à l'heure, et qu'on voit devant une bannière de l'Union Jack, et avec cet appel de une qui est « Yanks go home », c'est-à-dire en gros « les Amerlocs, rentrez chez vous ». Et à partir de là, on va chercher à englober sous cette étiquette Britpop des groupes finalement qui ne partagent pas grand-chose, hein, à part le fait d'être britannique. Il y a Saint-Etienne qui fait de la pop électro, il y a Pulp qui était un peu les héritiers des Smiths, il y a The Auteur qui se rapprochait des Kings. Et donc Britpop, c'est ce que vous venez de dire, c'est une construction marketing pour montrer que à cette époque, le rock anglais était de retour et que la domination de Nirvana, de Pearl Jam et de tous ces groupes grunge américains était révolue.
Alors, où s'arrête l'analogie dans la rivalité entre Blur et Oasis? Où s'arrête l'analogie avec la rivalité Beatles-Rolling Stone?
Vous l'avez précisé tout à l'heure, je pense que c'est... On cherche à reproduire ce qui s'est passé 25 ans plus tôt, 30 ans plus tôt, mais on ressent bien que tout ça est un peu artificiel, comme vous l'avez précisé. Les Stones et les Beatles, ils étaient montés les uns contre les autres, alors qu'en fait, ils participaient au groupe, à leurs disques respectifs. Hein. John et Paul ont participé à la chanson We Love You des Stones, et puis ils ont même assisté à l'enregistrement de Day in the Life. Hein. On les voit dans le clip.
Oui, et ils leur ont offert un disque et une chanson d'ailleurs, I Wanna Be Your Man, au tout début.
Exactement, ce qui les a propulsés d'ailleurs sur la scène londonienne. Et donc on a cherché à recréer artificiellement finalement cet antagonisme, tout simplement parce qu'en 95, Blur et Oasis, c'était les deux groupes les plus vendeurs de cette mouvance Britpop. C'est une époque où l'autre grand groupe de la Britpop, qui était Suède, était hors jeu parce que l'album Dogman Star n'avait pas rencontré le succès espéré. Et donc on va opposer artificiellement Blur et Oasis, alors que c'est pas du tout la même chose.
Et non.
Mais ça va avoir des effets sur ces deux groupes, paradoxalement. Notamment Blur, parce qu'au début, Damon Albarn, il se la joue un peu un télo londonien, il citait Marx dans ses interviews. Et dès qu'on va le mettre en concurrence avec les Gallagher, qui ont des côtés un peu plus lads, plus petite frappe anglaise, Albarn va donner des interviews à des journaux Alpha Male, un peu comme Loaded, il va mettre des t-shirts de foot, et il va devenir le parfait lad, alors qu'avant, il n'était pas du tout.
Alors, comment ont-ils été reçus par les Britanniques, ces chanteurs et ces membres du groupe, qui avaient une vraie personnalité? D'ailleurs, pour qu'un groupe entre dans l'histoire, me semble-t-il, il faut que ces leaders aient du charisme, hein, c'est incontournable.
Exactement, il faut qu'ils aient du charisme, et ça, alors, ils ont du talent, ils ont du charisme aussi, Liam et Noël en ont particulièrement. Et je crois que le succès d'Oasis, on le doit à la qualité des chansons, mais aussi à leur personnalité. Hein. Il y avait déjà eu, par le passé, des groupes avec deux frères qui se chamaillaient. Hein. On pense aux Kings, aux États-Unis, avec les Brothers. Mais alors là, ça prend des proportions démesurées. Hein. Ça s'insulte, ça s'envoie des guitares à la figure. Et donc, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, très vite, on va suivre la saga d'Oasis comme on suivrait un soap-opéra, avec des brouilles, des réconciliations, des scandales. On va les pousser à l'outrance, et parce que ça fait vendre des journaux. Et à mon avis, ça explique aussi la sortie désastreuse de Noël sur le sida. Et oui. Donc, Liam et Noël Gallagher, ce ne sont pas seulement des musiciens, c'est aussi des sortes de personnages de cartoon. Ça fera leur force, mais aussi leur faiblesse, hein, parce que pendant très longtemps, on ne va pas les prendre très au sérieux, notamment dans la presse musicale anglaise.
Alors quand on posait la question, êtes-vous Beatles ou Rolling Stone, il y avait une option qui était de dire, moi je suis les deux, j'aime les deux, et c'était complètement pertinent. Si je vous pose la question, vous, Oasis Blur, vous êtes plutôt Oasis ou Blur?
Alors, il y a une... En général, on répond, je suis plutôt Pulp, c'est une manière de répondre.
Oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure.
C'est plutôt... c'était un peu ça. Personnellement, je serais plus, disons, early Oasis, c'est-à-dire vraiment les deux premiers Oasis qui sont des disques magnifiques. Et après, j'ai tendance à penser qu'ils ont un peu répété toujours la même formule. Mais je préfère Blur après, c'est-à-dire la période américaine que vous avez citée, à partir de Blur, l'album éponyme de 97, ou de 13 deux ans plus tard. Donc j'aime un peu des deux. Voilà, les débuts d'Oasis et puis la fin de Blur.
Bon, ouais, parfait. Bonne réponse, c'est clair. On va se retrouver dans 3 minutes après avoir écouté Yoa, Paroxétine.
France Inter. Affaires sensibles.
Frédéric Granier, journaliste, critique de rock, dans votre prochain livre, dont on redira un mot à la fin de l'émission, qui s'appelle Imagine, 12 chansons qui ont fait l'histoire. Vous avez retenu le grand tube d'Oasis, Wonderwall. Alors, c'est pas forcément leur meilleure chanson, ni celle qui leur ressemble le plus d'ailleurs, et pourtant, c'est elle qui a marqué les esprits. Pourquoi ?
Si elle a autant marché, c'est parce que c'est une balade. On est loin du déluge de guitare caractéristique de leurs autres morceaux. Et donc, Wonderwall, c'est pas trop agressif. C'est pas trop anglais non plus. C'est-à-dire que c'est calibré pour la radio. Et calibré pour les radios américaines et pour MTV. Et d'ailleurs, ça fera un carton aux États-Unis. Mmh. Ce qui laissera d'ailleurs espérer aux Gallagher une belle carrière outre-Atlantique. Et malheureusement pour eux, ce ne sera pas le cas. Ça sera un peu toujours des one-hit wonder au pays de l'oncle Sam, alors qu'ils resteront des méga-stars en Angleterre. Et Wonderwall, peut-être parce qu'elle est si peu caractéristique du style d'Oasis, c'est une chanson qui sera détestée par Noël Gallagher lui-même, hein, ce qui est est souvent le cas quand un artiste se sent un peu écrasé par le poids de son propre tube. C'est pas le seul exemple, hein. D'ailleurs, je pense à Creed de Radiohead, que le groupe refusera longtemps de jouer sur scène. Mais Wonderwall, c'est vraiment une chanson importante. C'est une chanson importante parce qu'elle incarne cette époque, elle incarne cette fierté anglaise, ce côté rouleau compresseur de la culture anglaise, cet essor du rock britannique, parce que c'est vraiment le seul tube international de la Britpop, et puis aussi parce que, stylistiquement, elle va ouvrir la voie à des groupes comme The Verve ou Coldplay qui vont reprendre un peu plus tard ce schéma de la balade orchestrée romantique, assez proche finalement de ce que pouvaient faire les Beatles en 67-68.
D'ailleurs, puisque vous parlez des Beatles, Wonderwall est aussi une référence, alors je ne sais pas si c'est volontaire, mais ça nous renvoie à un album obscur de George Harrison, le célèbre guitariste des Fab Four, et on l'a vu, les frères Gallagher sont des fans inconditionnels des Beatles, et je vous propose d'écouter une archive étonnante qui date de 1996, c'est George Harrison qui donne son avis sur Oasis.
Celui qui écrit les chansons, Noël, lui ça va. Mais il manque de profondeur. L'autre gars est pénible. Ils n'ont pas besoin de lui. Celui qui écrit les chansons peut les chanter aussi bien. Peut-être qu'il le garde dans le groupe parce que c'est son frère.
Bon, il y a un côté, on reconnaît bien George Harrison qui est souvent grincheux, pas mieux que lui pour casser l'ambiance, hein, franchement. Et puis on voit qu'il comprend pas vraiment la popularité de ces nouveaux venus. Pourquoi à votre avis ? J'imagine que c'est pas de la jalousie, il a plus rien à prouver, mais qu'est-ce qu'il ne comprend pas ?
Je pense que c'est une question de génération, et puis oui. C'est un peu le Beatle grincheux. C'est une archive amusante, et ça montre que George, c'était pas seulement le Beatle mystique, hein, qui chantait Alléluia, Hare Krishna, hein. C'était aussi un ancien bad boy de Liverpool, qui était capable d'être assez cinglant, et on le sent dans sa petite phrase. Et d'ailleurs, quand on regarde la photo de Liam Gallagher en 95, je trouve que c'est le portrait craché de Harrison en 66, période Revolver, hein. Mais je pense que il y avait une rivalité. Et la vraie rivalité, peut-être qu'en 95, c'est pas entre Blur et Oasis, c'est peut-être entre Oasis et les Beatles. Parce qu'en 95, qu'est-ce qui se passe au moment où il y a Morning Glory et The Great Escape?
Il y a l'anthologie des Beatles qui sort.
Exactement. Et ça remet les Fab Four à la mode 25 ans après leur séparation. Et c'est un carton planétaire. Vous vous souvenez, on a même ressuscité entre guillemets John Lennon sur Free as a Bird sur ce nouveau titre. Et donc on peut se demander vraiment si à l'époque ce sont pas les Beatles qui sont les grands rivaux d'Oasis. Et je crois que on peut percevoir chez Harrison un petit peu une volonté d'en découdre face à ces jeunes blancs-becs.
D'accord, je l'avais pas vu comme ça, c'est éclairant. Alors, on l'a vu dans le récit, cette bataille entre ces deux groupes, c'est aussi la synthèse d'un conflit qui agite le pays depuis des lustres, la guerre des classes. C'est intéressant ça aussi, cette approche-là, cette approche sociétale.
Oui, oui, et puis ça remonte d'ailleurs en Angleterre bien avant Marx, hein, c'était vraiment au 18e siècle, 19e siècle, c'était Benjamin Disraeli qui deviendra le premier ministre de la reine Victoria, qui évoquait dans un roman qui s'appelle Sibylle une coupure. Il avait théorisé cette coupure entre deux nations, entre lesquelles il n'y avait ni relation, ni sympathie, finalement, entre les riches et les pauvres. Hein. Cette vision d'un système à deux étages, de deux nations qui seraient aussi distinctes que deux planètes, ça va perdurer dans la psyché britannique. Et en Grande-Bretagne, on aime les oppositions peut-être un peu binaires. Alors effectivement, on a Oasis, les pauvres du Nord, contre Blur, les riches intello-londoniens. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est très réducteur. C'est un peu, voilà, comme on opposait, encore une référence beatlesque, mais un peu comme on opposait les sages Beatles aux Stones, qu'on présentait comme des mauvais garçons, alors que les Beatles étaient loin d'être des gentils garçons, on le sait bien.
Bien sûr, d'ailleurs leurs paroles sont subversives mais plus cérébrales, celles des Beatles. Celles des Rolling Stones, c'est « Allez-vous battre dans la rue ?» Et Lennon répond « Oui, la révolution, d'accord, mais pas comme vous la voyez forcément. »
Ouais, exactement.
Il y a un côté trip d'un côté, un côté cérébral de l'autre. Après la Britpop, on passe à la Cool Britannia. D'ailleurs, au moment où Tony Blair est élu, après 18 ans de conservatisme, il y a un lien. Pouvez-vous nous expliquer ce que recouvre le terme Cool Britannia ?
C'est un jeu de mots autour de Rule Britannia, qui est l'hymne de la Royal Navy depuis le 18e siècle. Et c'est une expression, Cool Britannia, qui va apparaître dans les journaux pour évoquer le renouveau de la culture anglaise au milieu des années 90. Parce qu'il n'y a pas seulement la Britpop, hein, le succès du rock anglais à l'époque et de Blur et Oasis, ça passe aussi par le cinéma. Hein. Vous vous souvenez, c'est l'époque de 4 mariages et un enterrement, de Trainspotting, de Full Monty, tout ça qui sont d'énormes succès. Il y a les écrivains anglais qui cartonnent, comme Jonathan Coe, Nick Hornby, la mode aussi, avec des créateurs comme Alexander McQueen. Donc c'est une époque où Londres redevient brièvement hein, le centre du monde, un peu comme on parlait du Swinging London à l'apogée au milieu des années 60, oui. 60, 65, 66. Mm-hmm. Et donc, en 95, au moment de cette rivalité Blur-Oasis, bah, c'est cool d'être anglais. Et la Cool Britannia, c'est un peu une réaction aussi à ce qu'on appelait la Cool Britannia, la cruelle Britannia, comme on surnommait parfois les années Thatcher. Et celui qui est cool, évidemment, en 97, bah, c'est Tony Blair.
Bon, vous vous souvenez de la question qu'on s'est longtemps posée, est-ce que les Beatles un jour se reformeront? George Harrison avait répondu non, tant que Lennon sera mort. Est-ce que Oasis pourrait se reformer un jour?
Je ne peux pas prévoir l'avenir,
oui, bien sûr.
Mais je suis persuadé qu'une reformation d'Oasis est très 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 probable. Notamment pour des questions financières, parce que c'est très très rare de ne pas voir des groupes de rock mythiques se reformer au bout d'un moment, hein, pour des raisons financières. Hein. Il y a guère que les Smiths ou les Talking Heads qui n'ont pas cédé aux sirènes du revival. Et puis là, Noel Gallagher, on peut voir des affiches dans le métro, il part en tournée pour faire la promo de son quatrième album solo, donc la reformation d'Oasis, ça ne sera pas pour tout de suite. Mais il vient de déclarer à la presse que Liam pouvait l'appeler s'il avait encore son numéro. La porte est ouverte, hein. Donc on est sorti de la guerre froide et on passe à l'entente cordiale. Donc patience.
Alors le 1er juin prochain, vous sortirez un nouveau livre donc intitulé Imagine en français, 12 chansons qui ont fait l'histoire chez Perrin. On peut avoir quelques informations sur les titres que vous avez choisis là dès maintenant ou c'est trop tôt?
Oh non, bien sûr. Donc dans ce livre qui s'appelle effectivement Imagine, j'ai fait le lien entre un événement historique et une chanson pop pour montrer que parfois la petite histoire rencontre la grande et c'est construit à la manière d'un album et d'une playlist. Alors il y a Imagine de Lennon, San Francisco de Scott McKenzie, Waterloo de ABBA, God Save the Queen des Sex Pistols, Aux Armes etc. de Gainsbourg, We Are the World de USA for Africa, Graceland de Paul Simon, Wind of Change de Scorpion, Innuendo de Queen, Zombie des Cranberries, The Rising de Bruce Springsteen pour parler du 11 septembre, oui. Et enfin Wonderwall d'Oasis pour évoquer cette vague de la Cool Britannia.
Bon, si vous me faire plaisir, vous ajoutez Eleanor Rigby, s'il vous plaît. Merci.
Merci, ça sera peut-être pour le tome 2.
Voilà. Merci infiniment. Au revoir.
Merci, au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Blur contre Oasis, la bataille d'Angleterre. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur France Inter, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Arnaud Caillet.